Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 30 juin 2022, fin du premier semestre. Il y a des journées qui ne servent à rien et il y a des journées qui servent à faire une introspection sur nous-mêmes, histoire de savoir ce que l'on va faire dans le futur et ce que l'on a fait du passé. En l'occurrence, mon prof de méditation m'avait dit qu'il fallait vivre l'instant présent. Hier, ça n'était visiblement pas le cas. L'avant-dernière séance de cet abominable premier semestre de 2022 aura donc été dédiée à l'écoute des banquiers centraux et à l'analyse des 120 dernières années boursières pour essayer de savoir ce qu'il adviendra de nos performances à Noël. Mis à part que le Bitcoin sera à 100 000 $, bien sûr. En observant la clôture des indices américains, on peut dire que ça n'était pas la folie sur le marché. En observant les indices européens, on va dire que les gars ont simplement rattrapé le retard accumulé la veille à cause du décalage horaire. En résumé, on n'a pas fait grand-chose, mais il faut dire à notre décharge que les grosses nouvelles n'étaient pas à légion. Il est vrai que l'on a beaucoup écouté Powell, et on y reviendra, mais qu'à la fin, nous n'étions pas plus avancés qu'hier matin, et que la motivation à 48 heures du début du mois de juillet n'était pas non plus à son apogée. Et comme d'habitude, quand on ne sait plus quoi faire ou plus quoi dire, on plonge dans les statistiques, histoire d'avoir un truc à raconter à l'apéro de jeudi soir. Si l'on fait l'état des lieux, ça n'est pas terrible et apparemment cela fait donc plus de 50 ans que l'on n'avait plus vécu un premier semestre aussi merdique. Pourtant, moi qui suis là depuis le début des années 90, j'ai quand même bien l'impression d'avoir vécu des moments bien plus pourris que celui que nous vivons. Et pourtant, si l'on se base sur tous les premiers semestres de chaque année depuis 1900, ça faisait 52 ans que les 6 mois courants du 1er janvier au 30 juin n'avaient pas été si pourris, admettons. Là où tout cela devient intéressant, c'est quand nous regardons ce qui s'est passé ensuite. Et si l'on prend les premiers semestres de toutes les années de bourse depuis 120 ans, on se rend compte qu'à chaque fois que le marché a baissé de plus de 15% durant les 6 premiers mois de l'année de sa calendaire, le reste de l'année aura été spectaculaire. Alors on ne va pas s'emballer, hein. Depuis le 31 décembre 1899, il n'y a eu que 5 années qui correspondent à cette description. 1932, j'étais pas là. 1939, j'étais pas là non plus. 1940, là encore, absent. 1962, toujours pas présent. Et 1970, où là, je n'étais carrément même pas né. Difficile donc d'en tirer la moindre expérience personnelle. Il a donc fallu regarder ce qui s'est passé durant la seconde partie de ces années qui avaient commencé avec des semestres tout pourris. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle de la journée. Comme quoi, il nous en faut peu pour être excités comme des fans de foot à la veille d'une Coupe du Monde où t'auras pas le droit de faire la fête, pas le droit de boire de l'alcool et principalement le droit de choper la crève dans des stades climatisés. La bonne nouvelle est donc que sur ces 5 années qui ont mal commencé, en 32, en 49, en 40, en 60... en 32, en 39, en 40, en 62 et en 1970, à chaque fois, le second trimestre aura été à la hausse avec une moyenne de 26% de hausse les 6 derniers mois de l'année. Merci l'année 1932 qui aura vu un rallye de 55% et qui a fait péter la moyenne à la hausse. En me plongeant dans ces statistiques ce matin, j'ai donc immédiatement senti monter en moi une boule d'optimisme et une envie de réclamer le statut de bullish qui me caractérise depuis pas mal d'années. Sauf qu'après, j'ai regardé les mêmes statistiques en tenant compte des années où on a baissé de plus de 10% sur les 6 premiers mois de l'année et non pas 15. Et du coup, le taux de réussite n'est plus de 100% à la hausse, mais de 66%. Et qu'en 1926, on a quand même réussi à perdre 26% de plus dans les 6 derniers mois de l'année. Si on devait remettre ça en 2022, le S&P 500 terminerait l'année à 2800. Je préfère pas y penser. En résumé, quand tu prends les statistiques du passé, tu peux toujours leur faire dire ce que tu veux suivant comment tu les observes. Ce que l'on sait pour sûr, c'est que sur le long terme, les marchés ont tendance à monter plus qu'à baisser, qu'il y a plus de bull market que de bear market, que ces derniers durent moins longtemps et qu'à la fin, c'est toujours les bulls qui gagnent, même s'il y a des moments difficiles. Maintenant, on retiendra tout de même que plus les 6 premiers mois sont merdiques, plus la seconde partie de l'année est meilleure. Vous ajoutez à cela que les années des élections de mi-mandat aux USA, ces années sont 40% plus volatiles que les autres et qu'en général, le bottom se fait entre le 1er juillet et le 30 septembre et que le stratège de Morgan Stanley dit que le S&P 500 doit encore baisser de 10% avant de redémarrer. Et on a tout ce qu'il faut pour bien faire. La stratégie à appliquer donc est la suivante. En 1, vous mettez des limites à l'achat sur le S&P 500 autour de 3425 ou 3422,5 environ. En 2, vous partez en vacances sur un yacht à 100 000 € la semaine. En 3, vous annoncez au service de location que vous payerez à la fin de l'année quand le S&P 500 sera remonté à 4850 pour faire un nouveau plus haut historique et le tour est joué. En 4, reste juste que les statistiques fonctionnent. En 5, n'oubliez jamais que c'est facile la bourse. Et voyez en 6, voyez comment on arrive à meubler 2 pages de chronique quand on n'a strictement rien à dire. Pendant que vous comptez les heures pour partir en vacances, tous les banquiers centraux du monde en ont profité pour aller se faire une semaine de vacances au Portugal avant la grosse transhumance des juilletistes. Hier, Lagarde et Powell ont fait le show pour le festival annuel des banquiers centraux avant les traditionnels festivals musicaux de l'été. Il est clair que c'était un peu moins festif, il y avait moins d'alcool et de substances prohibées, mais par contre, personne n'a dû se résoudre à dormir sous une tente dans un terrain boueux ou pas. En revanche, hier, Jérôme Powell a parlé. Et c'est à peu près la seule chose qui a fait vaguement réagir les marchés et les chroniqueurs boursiers. Il faut dire que contrairement à un groupe de musiciens, la foule ne vient pas pour entendre Powell chanter la même chanson et encore, histoire de pouvoir hurler le refrain avec lui, mais plutôt pour entendre une nouvelle chanson à chaque fois. Le problème, c'est que quand t'es banquier central, tu peux pas à chaque fois trouver une nouvelle histoire à raconter, sans compter que ton champ lexical est relativement limité. Donc Powell s'est surtout contenté de répéter ce qu'il a déjà dit plusieurs fois. En gros, il a dit qu'il y avait un risque que la hausse des taux fasse ralentir l'économie, mais que ce n'était pas pire que de laisser l'inflation s'installer durablement. Il a dit que la probabilité de soft landing était réaliste, mais que le hard landing l'était aussi. La bonne vieille théorie du « si ce n'est pas l'un, ce sera l'autre », appelée aussi la stratégie du « je couvre mon cul ». Puis Powell a également dit qu'il n'avait pas pour but de planter l'économie, et que d'ailleurs cette dernière allait plutôt bien, et puis finalement, lorsque vous avez tout relu soigneusement, vous vous rendez compte qu'il n'y a strictement rien de neuf, que le boulot des banques centrales n'offre aucune garantie de quoi que ce soit, et que s'il n'était pas venu à Sintra, ça n'aurait strictement rien changé, comme le marché hier. Rien n'a changé. Ce matin, l'Asie est partagée entre le Japon qui s'effondre de 1,4% après des chiffres de la production industrielle que l'on qualifiera de tout bonnement dégueulasse, et la Chine monte de 1,3% après avoir montré des chiffres de la production manufacturière qui étaient meilleurs que prévu. Quant au Hang Seng, il ne fait strictement rien. Rien comme le Bitcoin qui est à 20 000 $, rien comme le pétrole qui tourne autour des 110-111 $, rien comme l'or qui est à 1 817 $. Si l'on veut aussi parler des choses importantes de l'économie, on retiendra que l'inflation en Allemagne hier n'a pas fait de nouveaux records et semblait même se calmer un peu à 8,2 contre 8,7% le mois dernier. Mais selon les experts en inflation, on n'a pas encore fait le pic parce que la baisse d'hier est principalement due aux mesures gouvernementales mises en place pour éviter de totalement détruire le consommateur. On y verra, on devrait y voir plus clair en septembre. Et les chiffres du PCA aux USA ont également été révisés à la hausse, laissant supposer que l'inflation ne monte plus vraiment, mais qu'il n'est pas encore entré dans sa courbe descendante qui obsède Powell et ses amis. Il y a aussi Gediminas Simkus, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, en gros un type que personne ne connaît mais qui est très bien payé pour brasser de l'air à la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré que les 0,25% de hausse des taux attendus en juillet ne sont pas gravés dans le marbre et que, selon lui, il faudrait envisager une hausse de 0,5% d'un coup d'un seul pour montrer à l'inflation que la BCE ne se laissera pas faire. Hier, il y avait aussi Bed Bath & Beyond qui ont publié des chiffres en dessous des attentes et annoncé que son CEO avait donné son sac et suite au mauvais trimestre. Le titre s'est donc fait défoncer, il n'y a pas d'autre mot, de 25%. Et avec l'avalanche de publications qui va nous tomber dessus en juillet, on a meilleur temps de partir en vacances dans un endroit où il n'y a pas de wifi, ça vous évitera tout risque cardiaque en cas de publication trimestrielle décevante. On notera aussi le downgrade de Morgan Stanley sur Carnival, le titre valait pas loin de 10,25 quand l'analyste qui avait un target à 13, il passe à 7 d'objectif et le titre se fait défoncer de 14% pour finir sous les 9. Autrement, il y a un autre analyste qui pense qu'Amazon peut tripler grâce au cloud, que Microsoft montait à 370 $ grâce au cloud. Reste plus qu'à faire ce foutu bottom une fois pour toutes et on pourra faire du shopping. Et puis, il y a un autre analyste qui estime que le pétrole va rapidement monter à 200 $ à cause de la gestion désastreuse, je cite, du côté de l'Europe, de la crise énergétique du côté de l'Europe. On se réjouit déjà de voir le baril donc à 200 $. Bon, en même temps, tant que c'est pas trop inflationniste, ça ira. Aujourd'hui, nous aurons un wagon de chiffres à surveiller, à commencer par le CPI en Europe ainsi que les dépenses de construction aux USA, l'ISM Manufacturing et le Manufacturing PMI tout seul, même si on ne sait plus trop qui est qui. Et puis du côté des trimestriels, il y aura Walgreens, Constellation Brands et Micron. Pas que c'est super important, mais on a vu que les sanctions n'étaient pas faites pour les amateurs et ni pour les professionnels d'ailleurs. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,4%. Et quand on voit le graphique du S&P 500 ou du Nasdaq, ça ressemble à la trajectoire d'un avion qui vient de décoller et qui se rend compte qu'il a 3 moteurs sur 4 qui sont en feu. Mais qu'heureusement, les statistiques parlent en notre faveur. Tout espoir n'est pas perdu. Passez une excellente journée et on se voit demain, comme d'habitude, histoire de commencer un trimestre qui devrait monter. Statistiquement. À demain et très bonne journée.